Comme vous le voyez, ce week-end va être sous le signe de la joie et de cette joie de l'Évangile à partir de l'exhortation apostolique de notre pape François. Évidemment, comme vous le savez, le temps de l'Avent, comme toute grossesse aussi qui se passe bien, c'est un temps de joie, un temps d'action de grâce, même si c'est parfois un temps de fatigue. Le temps de l'Avent, justement, c'est un temps d'enfantement. Et donc, par définition, le temps de l'Avent, c'est un temps joyeux. C'est déjà un mystère joyeux quand on médite les mystères du rosaire, hein, de, vous savez, donc à la fois l'Annonciation, à la fois la Visitation et puis la naissance de Jésus font partie des mystères joyeux de notre vie et de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Et du coup, je me suis dit, ça pouvait être bien de mettre cette retraite familiale sous le signe de la joie, parce qu'on peut aussi être tenté par une forme de tristesse, par une forme de vague à l'âme ou aquabonisme, à quoi bon faire ceci, à quoi bon faire cela, si la vie est injuste, si le monde est incompris, comme Calimero qui s'estime jamais assez aimé. Alors, je trouve que de ce point de vue-là, le pape François nous relance dans cette joie de l'Évangile, dans cette action de grâce d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, confirmé, marié, voilà, et dans cette action de grâce de vraiment nous laisser entraîner et pour nous laisser tirer vers le haut, au fond, par l'Évangile lui-même et par le magistère de l'Église et du magistère du Saint-Père. Ce document qu'il a produit, la joie de l'Évangile. Donc on en méditera certains passages, c'est très abondant, il aime bien écrire. Il y a beaucoup de choses sur des choses très différentes. Peut-être déjà vous l'avez travaillé soit en équipe Notre-Dame, soit personnellement, soit dans les paroisses, etc. Il y a eu certainement depuis maintenant un an pratiquement l'occasion de le travailler. Et ce que je vous propose tout simplement, c'est d'en lire un certain nombre d'extraits, puis de méditer avec vous, de méditer avec vous sur ce texte, qui est un texte tout simple, mais en même temps d'une grande profondeur. Je trouve que c'est d'une grande profondeur et je pense que pour nous, en tout cas, ça va être une manière de nous reprendre, ressaisir aussi dans cet amour de l'Évangile et dans cet amour matrimonial pour ce qui vous concerne. Pour nous prêtres, en tout cas, dans cette consécration sacerdotale, d'y redécouvrir la joie, parce que c'est vrai que nous avons parfois cette tentation d'une certaine usure, que ce soit par la vie du quotidien, que ce soit par après les grands émerveillements du début, les grands coups de foudre. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des coups de foudre ou pas, parce que l'histoire d'amour ne commence pas toujours par un coup de foudre. Mais vivre sous la foudre, c'est un peu usant. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, est-ce que, au fond, j'ai pas, on peut se laisser entraîner par une sorte de... Alors, je trouve que c'est bien de remettre ce cap sur la joie, et la joie qui nous vient du Christ. Et la joie dont la Vierge Marie veut être le témoin, le disciple aussi, d'une certaine manière, disciple Christ. S'il est notre paix, il est aussi notre joie. Au numéro 1, on commence donc la joie de l'Évangile. Et vous savez, juste pour recadrer un peu le texte, donc c'est une exhortation apostolique. Il y a eu auparavant Lumen Fidei, la lumière de la foi, mais qui était une encyclique à quatre mains, puisque déjà le pape Benoît XVI y avait largement travaillé et de façon assez humble le pape François a souhaité aussi publier sous son nom aussi le travail que le pape Benoît XVI avait fait, vraiment une encyclique extraordinaire. Mais vraiment, ce qui est en propre, on peut dire, de lui, c'est la joie de l'Évangile. C'est ce qu'il a travaillé seul. Et le premier texte qu'un pape publie, c'est un texte qu'on appelle programmatique. En général, c'est une encyclique, il a choisi de se publier sous forme de exhortation apostolique. Ça, bon, c'est un peu des détails de professionnels, c'est un peu différent. Mais c'est intéressant de dire que c'est quelque chose qui est programmatique, c'est-à-dire qui va donner une lumière sur tout le pontificat. Hein, vous vous souvenez de l'encyclique programmatique de Jean-Paul II, ou pas? Bon. Non, non, on n'est pas peur de l'Estoema. L'Estoema, c'est un monsieur qui l'a dit, un monsieur Jésus, mais... n'est pas peur non plus. C'était Redentor Hominis, le rédempteur de l'homme, parce qu'il va parler de la condition humaine, de cette vision de l'homme qui est enracinée en Dieu. Et bon, l'encyclique programmatique du pape Benoît XVI, Deus caritas est, Dieu est charité, donc c'est sous l'amour de Dieu qu'il va mettre son pontificat. Et là, c'est sous cette joie aussi qui caractérise cette humanité du pape François qui vient d'Argentine, pays où j'habitais pendant un certain nombre d'années. Ça me donne l'occasion aussi de me présenter, donc le père Pierre-Marie Castagnol. Certains d'entre vous peut-être me connaissent parce que je leur ai fait subir des préparations au mariage ici, et d'autres pas. Donc je suis dans la communauté depuis 1987, donc un peu plus de 27 ans de vie religieuse. J'ai été ordonné prêtre en 1995, et de 1991 à 2001, j'ai été en Argentine, où j'ai fondé une maison de la congrégation, une maison qui existe toujours. Et en 2001, j'ai été élu supérieur général de la communauté. Le frère n'a pas... Est-ce qu'il a présenté la communauté ou pas? Oui, c'est bon. Bien. Il a fait son job, c'est bien. Et puis, supérieur général 2001 à 2007. Ensuite, je suis allé en Alsace, qui est notre troisième maison. Ici, c'est la maison mère, et deux prieurés. En Alsace, où je suis resté 4 ans et demi, où j'ai été au service du diocèse de Belfort-Montbéliard comme aumônier des étudiants et jeunes professionnels, donc au service de la pastorale des jeunes, avec aussi un apostolat de prédication de retraite. Et dès le début de mon retour en France en 2001, j'ai commencé à être impliqué dans les préparations au mariage, ce qui fait, avec les prédications de retraite, l'essentiel de mon ministère. Je prépare au mariage individuellement, à peu près 10 ou 15 couples par an, et ça depuis 2001, oui, donc ça fait 14 ans que je fais ça. Et c'est vrai que c'est ce qui est un peu nouveau, c'est la préparation au mariage de gens mariés. Donc ça, ça vient de sortir, c'est-à-dire que la préparation au mariage de personnes qui estiment ne pas avoir reçu une préparation suffisante, et qui, rencontrant des difficultés dans leur couple, du coup, demandent de refaire une dizaine de rencontres, c'est sur 10 rencontres à peu près, à partir d'un parcours qui a été fait par un des frères de Saint-Jean, sur la préparation au mariage, et qui passe en revue à peu près toutes les dimensions du mariage catholique. Voilà un peu pour ma vie. Et puis en communauté, je suis économe général, c'est-à-dire je m'occupe des sous-sous, donc aidé par deux employés qui sont comptables, et donc de veiller au grain pour la communauté, les questions administratives, les questions financières, pour que chaque maison ait ce qu'il lui faut, qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on a, contrairement à l'État, par exemple, qui dit, donc du coup, moi, je me suis présenté comme ministre des Finances, mais ils ne m'ont pas encore accueilli. Donc, mais non, nous n'avons pas d'emprunt, nous ne sommes pas en rouge. Donc, et nous vivons essentiellement aussi, ça aussi c'est important que vous le sachiez, essentiellement de dons. N'y voyez pas un message subliminal, ou voyez-y un message subliminal, selon les uns et les autres. Mais c'est intéressant, parce que du coup, être économe, et j'imagine dans un diocèse, ça va être pareil, c'est aussi toucher du doigt la providence du Seigneur, et voilà, et que le Seigneur, au moment voulu, en même temps, nous envoie ce dont on a besoin pour réaliser, surtout, vous imaginez une baraque comme celle-ci, chauffée, c'est un peu compliqué. Donc, et puis, on va faire des travaux dans notre grande chapelle où on va célébrer les vêpres cet après-midi. Et donc, voilà, donc c'est toujours des budgets qui font peur dès qu'on les regarde, et puis ensuite, finalement... on y arrive. Alors, je vous propose de commencer à lire, donc au numéro 1, l'Évangile, la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette exhortation, je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de l'Église dans les prochaines années. Alors, premier point, la joie remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus. Et je trouve que c'est déjà intéressant de voir que ce que le Saint-Père marque comme source de tristesse, qui est dans la phrase suivante, c'est à la fois le péché, à la fois le vide intérieur et l'isolement. Et d'une certaine manière, la désespérance, parce que ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés, donc la désespérance qui vient du manque de salut. Et c'est vrai que si l'on peut voir, en tout cas dans nos pays, de vieilles traditions chrétiennes, et peut-être singulièrement en France, une certaine tristesse, un certain découragement, c'est en grande partie par un manque de vie spirituelle, par un manque de confiance en Dieu, par un manque de la présence de Dieu dans la société. La conscience, au fond, de nos concitoyens qu'ils sont seuls, qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, parce qu'on ne parle jamais de Dieu, ou alors c'est réservé pour certains à un stade uniquement privé. Eh bien, le fait de l'absence de Dieu, et singulièrement l'absence de salut, l'absence d'espérance, est une source de tristesse dans nos vies. Et on pourrait voir aussi, revisiter dans nos existences, qu'est-ce qui, justement, nous rend peut-être plus tristes, nous implique un renfermement sur nous-mêmes, nous, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, c'est ce que dit le Saint-Père, c'est à la fois le péché, c'est-à-dire ces manques d'amour. On est fait pour la communion, parce qu'on a l'image et à la ressemblance d'une communion qui est Dieu lui-même. Eh bien, ces manques d'amour, ces replis sur nous-mêmes, finalement, même si on recherche un bien, mais c'est un faux bien, un bien illusoire, un bien uniquement apparent, hein, pas un bien véritable. Et cet isolement, c'est-à-dire penser notre vie comme si nous étions seuls. Et ça, mine de rien, je pense que dans la vie en couple, c'est très important. Ce matin, je parlais avec un couple qui est un peu en difficulté, où il y a eu des manques de fidélité, par exemple, qui n'est pas marié, hein, qui se prépare en mariage, mais qui, semble-t-il, va arrêter cette préparation. Je leur ai posé, mais où est-ce que vous en êtes de votre vie spirituelle? Parce qu'il peut y avoir des difficultés dans un couple, etc. Mais dans un couple où la foi est présente et la présence de Jésus est là, entre autres par le sacrement du mariage, eh bien, c'est quand même un atout supplémentaire pour rebondir, pour comme on dit là, en vigile, à la vigile pascale, dans l'exultet, bienheureuse faute qui nous valut un tel raison rédempteur. C'est-à-dire que bon, il y a eu là, pour le coup, un manque de fidélité des clercs. Et puis, ça peut être aussi la grande chance de leur vie, comme aussi la fin de leur couple. Bon, mais c'est vrai que quand j'ai touché la dimension spirituelle, j'ai senti un certain vide sidéral en face de moi. Et du coup, une certaine inquiétude, je dis, vous savez, je ne pensais pas que vous allez vous en tirer avec la force de vos petits poignets, les amis. Personne se sort de ça, et même d'autres choses. Personne rentre dans la joie uniquement par un certain optimisme. Ce n'est pas une question psychologique. Bon, il y a des gens qui sont optimistes, il y a des gens qui ne sont pas optimistes, etc. Bon, mais la question spirituelle, c'est autre chose qu'une question psychologique. C'est-à-dire la question psychologique, ce sont nos personnalités, nos manières d'être, etc. La question spirituelle, c'est vraiment cette présence de Dieu dans le couple et ce contact du couple avec le Seigneur, essentiellement dans la prière. Prière personnelle, prière de famille, prière en couple, retraite comme vous le faites, etc. Tout ça, c'est des lieux où vous allez alimenter la joie. Parce que précisément, vous alimenterez l'espérance, vous vous remettrez face à l'espérance que Dieu donne par son salut en Jésus, et du coup, ben là, forcément, il y a quelque chose qui nous tire vers le haut. Il y a une miséricorde, par exemple. Mais celui qui ne croit pas, celui qui n'a pas de vie spirituelle, je demandais justement à la personne qui avait fait cet acte de manque de foi, est-ce que tu te pardonnes ? Il m'a dit, je n'arrive pas à me pardonner. Si tu n'arrives pas à te pardonner, mais et n'arrive pas non plus à rentrer dans un pardon parce qu'il y a un manque de conviction. C'est peut-être faut du temps aussi, c'est sûr, mais l'absence de vie spirituelle ne va pas aider au pardon. Ça, c'est tout à fait clair. Tout à fait clair. L'absence d'intimité avec le Seigneur ne va pas être un soutien. Au contraire, c'est l'expérience que le couple est quelque part seul face à lui-même. Or, ce n'est pas la réalité. Je trouve que justement, quand on prie en couple, quand on prie en communauté religieuse, en communauté paroissiale, quand on prie de façon personnelle, il y a cette expérience que je suis là au milieu de vous. Je suis là au milieu de vous. Je ne suis pas seul. Dieu qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, hein, disait le grand saint Augustin. Eh bien oui, je trouve que cette présence, la rencontre de Jésus, la vie spirituelle qui est une source de joie. Au contraire, analysons aussi nos manques de joie, nos tristesses entretenues, nos bouderies, nos enfermements sur nous-mêmes, nos isolements, comme aussi une conséquence à la fois peut-être du péché, très certainement, une conséquence du péché, c'est-à-dire des manques d'amour volontaire. Le péché, vous savez, pour qu'il soit péché, doit être volontaire. Et aussi des manques de vie intérieure quoi, et d'espérance. La très belle encyclique de Benoît XVI, vraiment excellente sur le Spe Salvi, sauvé dans l'espérance. Est-ce que l'espérance chrétienne, aujourd'hui, a un sens dans nos sociétés ? Est-ce que ça a un sens dans nos sociétés européennes, par exemple ? Mais ça a façonné le continent, quand même, l'espérance chrétienne. C'est énorme de dire qu'on met un enfant au monde, mais on le met un enfant au monde pour la vie éternelle. Pas que pour cette vie. Pas que pour cette vie, pour la vie éternelle. Alors, si on ne croit pas à la vie éternelle, si on met un enfant au monde pour la fausse, oui, on peut être triste. Le manque d'espérance est une source de violence. Parce que justement, nous ne sommes pas faits pour la désespérance. Celui qui n'a rien à perdre, eh bien celui, c'est justement celui de qui on peut tout craindre. Alors, en même temps, le Saint-Père nous dit, voilà, avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Cette idée d'enfantement de la joie, cette idée de quelque chose aussi qui se construit, quelque chose qui va de commencement en commencement, c'est comme un don qui nous est fait. Et je pense que le fait que le Saint-Père, justement, nous donne ce texte, justement, de dire qu'avec le Christ, eh bien, il y a toujours une joie possible, même dans des circonstances douloureuses de nos vies, circonstances de deuil, circonstances de difficultés dans le travail, circonstances de difficultés de santé, dans nos familles, dans nos rapports familiaux, bon voilà. Il y a un certain nombre de choses qui nous rendent tristes. Bon, ça fait partie de la vie c'est aussi ça. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Mais comme chrétiens, ces épreuves-là, nous les vivons différemment. Et ça, c'est capital de voir ça. Nous les vivons différemment. La foi n'est pas une assurance vie, nous sommes aussi autant éprouvés que les autres, voire dans certains pays plus éprouvés que les autres. Mais la foi nous permet de vivre ces épreuves comme un, en tout cas on en demande la grâce, hein, restons très modestes, comme un lieu aussi de rencontre, dans l'espérance. Et puis, le Saint-Père ajoute, voilà, cette nouvelle étape évangélisatrice, hein, pour les inviter à une... C'est vrai que on attend des chrétiens quand même une joie. Et c'est ce qui marque. Quelqu'un qui est joyeux alors qu'on le sait éprouver, on se dit, cette joie-là, c'est pas que de l'optimisme. C'est pas que de la joie psychologique, c'est une joie qui vient de l'intérieur, de la communion avec le Christ. Alors, chapitre 1, une joie qui se renouvelle et se communique. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus, on n'écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce risque certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine, ce n'est pas le désir de Dieu pour nous, ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Voilà ce que nous dit le Saint-Père, c'est le grand risque, c'est cette, au fond c'est ce matérialisme. Et malheureusement, à l'approche de Noël, on en sait bien que à la fois le matérialisme, et qui va de pair souvent, un individualisme, ne vivre que pour soi. Cet égoïsme, déjà le pape Jean-Paul II en parlait dans un document au commencement du nouveau millénaire, un très beau document, où justement il donnait un peu sa vision pour le millénaire, et à un moment donné, il y a un texte qui est très beau, qui s'appelle « La spiritualité de la communion ». Et il dit « Ce qui est tant des pièges à la communion, et entre autres la communion matrimoniale, mais pas que, la communion aussi dans une paroisse, la communion dans une vie religieuse, la communion dans une société, ce qui tend des pièges, eh bien c'est à la fois le perfectionnisme et à la fois l'individualisme. » De voir au fond que cet individualisme, cette manière de, au fond, de ne vivre que pour nous, ce repliement sur nous-mêmes, rend triste et s'oppose à l'amour qui est la source de toute joie. C'est pour ça que le pape François, par exemple, invite à sortir de l'entre-soi, il appelle ça comme ça, à sortir, à être de sortie. Il ne faut pas que l'Église soit un musée, il ne faut pas que, voilà, un musée, etc., à l'ancienne, avec les têtes de vieillerie, des trucs, etc. Non, il faut qu'on soit, au contraire, à la fois accueillant, mais à la fois aussi dans une étape d'évangélisation, de sortie. Et donc, c'est l'invitation que nous donne le Saint-Père à sortir de nous-mêmes, à sortir de cet égoïsme qui nous tend des pièges et qui est toujours là. Si on regarde bien, on a une forme d'égoïsme, de penser à nous-mêmes, d'être centré sur nous-mêmes, d'être bon. Et je pense que c'est aussi bien d'en prendre. Et alors qu'on, quelque part, on se dit, ben, ça va nous rendre heureux. Ben non, finalement, ça nous rend triste. Finalement, ça nous rend triste, l'égoïsme. C'est cet individualisme. Et on voit bien dans nos sociétés, sous prétexte de peut-être respecter la liberté de l'autre, surtout on n'intervient pas dans la vie des uns des autres. On se sent pas concerné, quoi, quelque part. Et en particulier, le Saint-Père met au cœur même de ce paragraphe, il n'y a plus de place pour les autres, les pauvres n'entrent plus. Et on n'écoute plus la voix de Dieu. Voilà. C'est ça un peu cette superficialité qui fait que une fermeture sur soi-même, bien souvent s'accompagne d'un durcissement du cœur et donc d'une fermeture à l'esprit du Seigneur, à sa parole, à la parole de l'Église, à la parole de... mais aussi s'accompagne parfois aussi d'une fermeture à la personne plus pauvre. Et la personne plus pauvre, c'est non seulement le SDF qui est au coin de la rue, ça fait partie des personnes pauvres, mais aussi la personne pauvre en capacité de relation, la personne difficile de caractère, la personne la vieille tante que personne veut aller visiter, etc. C'est aussi le pauvre. Et donc, posons-nous la question, de la place aussi des personnes plus pauvres dans nos vies. La personne plus pauvre, forcément, c'est celle qui nous met en difficulté, c'est celle qui a un côté parfois aussi difficile à porter, pénible à porter, parce que la pauvreté, c'est pas simplement, ça accompagne souvent aussi de difficultés de caractère, de problèmes de caractère, de problèmes de... il y a plusieurs sortes de pauvreté, il y a pauvreté de santé. Mais posons-nous la question, en tout cas, dans nos vies, où est-ce qu'il y a la place pour des personnes plus pauvres et aussi des personnes, au fond, qui... de voir ça comme un geste aussi pédagogique. Un geste pédagogique pour vous, comme couple, et pour les enfants. D'accueillir à la maison ou... une personne, je pense par exemple, j'ai été pendant un certain nombre d'années aumônier d'une association que vous connaissez peut-être, s'appelle À Bras Ouverts. Une association que j'ai beaucoup appréciée, fondée par Tuc du Alderville, qui propose entre autres, moi, non seulement à des jeunes, la plupart célibataires, de partir en week-end avec des personnes, des enfants, c'est des enfants lourdement handicapés. Mais aussi qui propose à des familles d'accueillir pour un week-end un enfant lourdement handicapé chez elles, permettant aussi à d'autres familles aussi de respirer. Parce que, disons simplement les choses, on est pour l'accueil des enfants handicapés, évidemment, mais en même temps, on voit tout ce que, on mesure, on suppose que tout ce que ça implique au quotidien pour chaque famille et pour les autres enfants, etc. T'as des tas d'activités qui ne sont pas possibles, bon... Ben, je trouve que c'est une belle initiative et il y avait certains couples qui, une fois de temps à autre, disaient ben oui, on veut bien accueillir. Ben, je trouve que c'est vraiment laisser la place aussi aux pauvres, c'est laisser la. C'est un geste pédagogique pour les enfants, forcément. Ils vont peut-être. Ils n'ont jamais rencontré dans leur entourage ou des personnes qui viennent de milieux très différents ou de justement des problèmes de santé qui sont du coup c'est apprendre aussi que chacun peut apprendre, c'est ça, transmettre la foi, c'est apprendre à se décentrer progressivement. L'enfant l'enfant est souvent aussi égoïste, hein, comme nous aussi, donc il faut aussi prêter des jouets, etc. Essayer de t'ouvrir à l'autre aussi, et je pense que de ce côté-là, je pense que c'est un geste vraiment évangélisateur aussi, d'accueillir les personnes plus pauvres. On dit oui, mais on n'a pas le temps, mais on n'a jamais le temps pour le pauvre, forcément. Celui qui apporte un beau contrat à l'entreprise, on a toujours le temps. Mais celui qui est pauvre, on n'a pas le temps. Donc, voilà, il faut se faire violence. Je ne dis pas que c'est pas pour culpabiliser, etc., ça ne m'intéresse pas, mais je me le dis aussi à moi-même, il faut se faire violence, parce que ça n'a rien, ça ne va pas de soi d'accueillir la personne plus fragile, fragile de santé, fragile de caractère, fragile socialement, à l'étranger, etc. Et je pense qu'un des signes, justement, d'une certaine, comme le Saint-Père a dit, devant le Parlement européen, l'Europe vieillit, quelque part, elle a peur aussi de s'ouvrir, elle a peur de... Mais c'est la perte aussi de l'espérance chrétienne. C'est la peur de l'espérance chrétienne. Alors, la personne plus pauvre, forcément, c'est compliqué d'accueillir, c'est toujours compliqué. D'accueillir la personne qui, d'une manière ou d'une autre, est fragile, mais en même temps, c'est beau et c'est source de joie. L'enthousiasme, c'est ça. Même les croyants courent ce risque certain et permanent. Et du coup, on se renferme intérieurement ou communautairement. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue, les bras ouverts. C'est le petit pas vers Jésus. C'est le moment pour dire à Jésus-Christ, « Seigneur, je me suis laissé tromper de mille manières, j'ai fui ton amour, cependant, je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J'ai besoin de toi, rachète-moi de nouveau, Seigneur, accepte-moi encore une fois dans tes bras rédempteurs. » C'est une très belle prière que nous pourrions faire régulièrement, cette prière du Saint-Père. Voilà, c'est aussi l'expérience d'une miséricorde. Et vous le savez bien, dans la vie matrimoniale, comme dans nos vies chrétiennes, cette place de la miséricorde, elle est capitale. Elle est capitale parce que c'est justement l'expérience du salut qui vient à nous. L'expérience que autre chose est possible. Ce n'est ni la mort ni le péché qui auront le dernier mot. Mais cet amour rédempteur que Jésus manifeste sur la croix. C'est ça qui aura le dernier mot. Nous le croyons. À certaines heures, c'est difficile à croire. À d'autres heures, c'est au contraire, ça nous porte. Mais voilà, c'est de revenir au Seigneur. Et le temps de l'Avent est un temps particulier pour ça. C'est un temps où on revient au Seigneur, où on se laisse à nouveau toucher. Vous voyez, où on se laisse toucher par le Seigneur, on se laisse. Parce qu'il y a pu y avoir une. Là, on commence l'année liturgique, comme vous le savez. Donc l'Avent, c'est le début de l'année liturgique. Donc du coup, quelque part, on va de commencement en commencement. On dit voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à recommencer en nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réouvrir en moi? Ah ben là, de nous poser la question et justement de sortir de cette forme d'enfermement, de mécontentement, de vexation, de murmure intérieur, de critique, qui ne nous fait pas du bien et qui ne fait pas du bien à l'autre. Et du coup, ça renvoie aussi, est-ce que je vois la vie aussi comme un don? Est-ce que je vois, vous voyez, quand on est préparation au mariage, une des questions que je pose, c'est est-ce que vous voyez l'autre comme un don de Dieu? Alors, ça dépend des moments, on dirait. C'est comme partout, c'est sûr. Mais je trouve que l'Avent, c'est aussi un moment où on est invité à revoir l'autre comme un don. Et non pas parce qu'on peut très bien voir l'autre comme une liste de défauts. C'est pas très facile. Très difficile. Vous viviriez un mois avec nous, peut-être moins, ben voilà, vous verriez chaque frère, vous pouvez dicter une liste de défauts, ben oui, c'est sûr. On est fait de creux et de bosses. Il ne faut pas être intelligent pour voir les défauts de l'autre, il faut être juste observateur, mais pour voir l'autre comme un don, ça c'est une attitude de foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les défauts. Ce n'est pas un angélisme ou une sorte d'optimisme béat, non, on voit les fragilités. Mais je vois d'abord le don de Dieu que tu es pour ma vie. Et je vois d'abord le don de Dieu pour notre couple. Le chrétien, c'est celui qui rentre dans une logique du don. Alors que l'endurcissement du cœur provient d'une logique du dû. Ça m'est dû. Et du coup, non, comme on ne l'a pas donné, je suis en colère et je trépigne, etc. Alors on voit l'enfant, mais aussi l'adulte, parfois peut être dans cette rancœur. Alors voilà, c'est juste se dire, est-ce que de se revoir chacun, de vous puissiez vous redire l'un à l'autre ce don que vous êtes pour vous, pour les enfants, et de dire aussi à chaque enfant combien il est un don pour la famille. C'est important aussi ça pour les enfants, qu'ils entendent que tu es un cadeau pour notre famille, et que chacun est un cadeau pour notre famille. Il n'y a pas un qui est plus aimé que l'autre, il n'y a pas toutes ces formes de jalousie, etc. Tu es un cadeau aussi pour notre famille. Et peut-être l'enfant le plus difficile, il y a parfois des enfants qui ne sont pas faciles, dont le caractère est difficile. Tu es un cadeau aussi pour notre famille. Même si, parfois j'ai envie de te taper dessus, mais bon. Mais ça, c'est mieux de ne pas le rajouter. Donc, voilà, c'est... mais bon, voilà, ça fait partie de l'éducation. Bienvenue au club. Mais voilà, tu as un cadeau. Que chantant, chacun réentende qu'il est un don. Un don de Dieu pour l'autre. Et puis qu'il peut, même s'il s'est éloigné, qu'il peut toujours revenir. Ça, l'espérance chrétienne, c'est qu'on peut toujours revenir. J'insiste, dit le pape François un peu plus loin, encore une fois, Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 70 fois 7 fois, Matthieu 18, 22, nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois 7 fois, il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête, de recommencer avec une tendresse qui ne déçoit jamais, qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne pourra davantage que sa vie qui nous pousse en avant. Voilà, on sent qu'il y a du souffle là derrière, ça c'est des belles paroles, c'est des... On sent vraiment une expérience spirituelle derrière ces paroles. C'est ça le chrétien. Hein. C'est pas. Ne nous donnons pas pour vaincus. Vous pouvez avoir des difficultés de couple, vous pouvez avoir des difficultés de famille, difficultés professionnelles, de santé, de difficultés dans l'éducation des enfants, que sais-je. Mais ne nous donnons pas pour vaincus. Ne nous laissons pas enfermés dans une certaine tristesse intérieure. C'est la joie. C'est la numéro 4. C'est la joie qui se vit dans les petites choses de l'existence quotidienne, comme réponse à l'invitation affectueuse de Dieu notre Père. Mon fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien. Ne te prive pas du bonheur d'un jour. Extrait du Siracide. Que de tendresse paternelle s'entrevoit derrière ces paroles. La force, moi j'aime bien que le Saint-Père parle de ça, la force des petites choses, vous voyez, la force des petites choses. Nos vies, et une vie matrimoniale, une vie familiale, est faite de tas de petites choses. C'est vraiment des petites choses. C'est des petites choses au quotidien dans lesquelles on met de l'amour. Et c'est ça l'héroïsme. Hein, par exemple, c'est intéressant dans la vie des martyrs. Par exemple, on dit, oh là, un martyr, etc. Ouf, tout de suite, là, vous mettez la barre très haut, etc. Mais dans la vie d'un martyr, quand on regarde, il y a eu beaucoup de choses qui ont précédé la vie d'un martyr. Des petites offrandes, des petits sacrifices, du quotidien, justement, qui a préparé son cœur au grand don de lui-même pour la confession de la profession de sa foi. Je pense que c'est aussi à nous de se dire quels sont les lieux où cet amour matrimonial va justement va se nourrir. Ou est-ce que quel moyen, comme vous prenez ce moyen de retraite en famille, c'est super, j'ai entendu certains des équipes Notre-Dame, etc., c'est vraiment super. Tout ça, c'est des... C'est, mais voilà, c'est des... Parce que aimer ne va pas de soi. Aimer n'est pas spontané. S'aimer en couple n'est loin d'être spontané. Et en famille, encore moins, j'allais dire. Ça demande justement une espérance qui est plus grande que nous. On grandit parce qu'on se donne à une espérance plus grande. C'est pas en mettant le matérialisme et au cœur de notre vie qu'on va grandir. Non, jamais. C'est au contraire en visant un bien qui est plus grand que nous. Et donc, je trouve que ce bien plus grand que nous, c'est dans les petites choses qu'il advient et qui vient à notre rencontre. C'est justement dans ces petites choses du quotidien que le Seigneur vient nous toucher. Comme disait la petite Thérèse, faire de façon extraordinaire les choses ordinaires. Voilà, c'est le chrétien. Il fait de façon l'ordinaire, mais il le fait de façon extraordinaire. Parce qu'il le vit avec Dieu. Il le vit avec Dieu. Et ça, je pense que pour nous, c'est quelque chose qui est capital. Numéro 5. L'évangile où resplendit glorieuse la croix du Christ invite avec insistance à la joie. Quelques exemples suffisent. Réjouis-toi et le salut de Marie à l'ange Gabriel. La visite de Marie à Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de joie dans le sein de sa mère. Dans son cantique, Marie proclame « Mon âme tressaille de joie en Dieu mon Sauveur ». Quand Jésus commence son ministère, Jean s'éclame « Telle est ma joie et elle est complète ». Jésus lui-même tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Son message est source de joie, je vous le dis, pour que votre joie, que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Notre joie chrétienne jaillit de la source de son cœur débordant. Il promet aux disciples, vous serez tristes, mais votre tristesse se changera en joie. Et il insiste, je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Je trouve ça très beau, ces citations comme ça du Nouveau Testament. On a au cœur une joie que personne ne peut nous enlever. La joie qui provient de la foi. La joie qui provient de l'Évangile. Mais ça demande, ce qui peut nous l'enlever, quelque part, c'est cet éloignement avec cette source. C'est-à-dire l'éloignement avec le Christ, l'éloignement avec le Seigneur, l'éloignement de sa parole, l'éloignement dans la prière, le durcissement du cœur, ça peut nous enlever la joie. Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité, furent remplis de joie. Le livre des Actes des Apôtres raconte que dans la première communauté, ils prenaient leur nourriture avec allégresse. Là où les disciples passaient, la joie fut vive. Et eux, dans les persécutions, étaient remplis de joie. Un eunuque qui venait d'être baptisé poursuivit son chemin tout joyeux, et le gardien de prison se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce fleuve de joie? Voilà, ça c'est très belle parole là, du Saint-Père. Pourquoi ne pas entrer dans ce fleuve de joie, puisque cette joie-là, elle est à nos portes. Et plus qu'à nos portes, elle est un cadeau auquel nous avons accès, dans la foi. Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. C'est pas mal celle-là. Il y a des chrétiens qui ont une tête de carême sans Pâques. C'est pas mal. C'est-à-dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et à toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Je comprends que les personnes qui deviennent tristes à cause de graves difficultés qu'elles doivent supporter, cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. Mon âme est exclue de la paix. J'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elle se renouvelle chaque matin, grande est sa fidélité. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur, du livre des Lamentations. Voilà, je trouve que c'est aussi, dans l'évangélisation, le fait d'avoir une joie, et une joie communicative, et une joie qui vient du cœur, et je trouve que c'est... vous voyez, à certains moments, c'est héroïque. Mais ça demande aussi une sortie de soi-même. Vous voyez, c'est là où il faut... Ça demande une sortie de soi-même, une sortie de ses préoccupations, une sortie de cet enfermement, parfois. Le fait de joyeux, c'est quelque part... En fait, c'est comme aimer, c'est se décentrer de soi-même. Et ça, le fait de se décentrer de soi-même, c'est un don qu'on demande au Seigneur. Ça n'est pas simplement le fruit d'une attitude psychologique, c'est un cadeau aussi qu'on demande. Et certaines personnes sont plus aptes, ou disons, ont plus de capacité de se décentrer, ont plus de... Bon, voilà, et du coup, de témoigner de cette joie qui vient de Dieu, et que voilà, qu'on ne soit pas qu'on n'ait pas des têtes de carême sans Pâques, quoi. C'est-à-dire que... On peut être occupé, mais qu'on ne soit pas préoccupé, même s'il y a des situations qui sont parfois un peu difficiles à vivre, mais qu'on ne soit pas aussi dans cette situation-là, sans espoir. La tentation apparaît fréquemment sous forme d'excuses et de récriminations, comme s'il devrait y avoir d'innombrables conditions pour que la joie soit possible. Voilà. Ah, mais mon père, vous ne m'imaginez pas, je ne suis pas joyeux parce qu'il y a ceci, parce que je me donne des raisons pour entretenir ma tristesse. On a toujours des raisons pour être triste, mais aussi on a toujours des raisons pour être dans la joie. On peut toujours récriminer, je peux toujours voir le verre à moitié vide, ça c'est possible. Ça, oui, mais est-ce que c'est ça que... Alors, ensuite, c'est des mentalités, c'est des personnalités, mais est-ce que je le vois aussi à moitié plein, dans le sens où je sais aussi que le Seigneur est là présent, et que même s'il n'y a pas une plénitude, ou accuser les autres de nos manques de joie, ou accuser les autres de nos tristesses, que les choses ne vont pas bien, parce qu'il y a un tel, il y a une telle, il y a ma famille éloignée, il y a la belle famille, il y a le travail, et du coup on est dans l'accusation, vous voyez, on n'est plus dans le don, on est dans l'accusation. Ah, on peut toujours accuser les autres, oui. Mais est-ce que c'est ça qui va nous redonner la joie? Cette joie que personne ne nous enlève. Le tu qui tue. Tu as fait ceci, tu as fait cela, tu. Le tu qui tue. D'où l'importance du pardon. Le Saint-Père l'a déjà. Mais c'est capital dans la vie chrétienne, mais la vie humaine, je veux dire dans la vie humaine, mais singulièrement dans la vie chrétienne, parce que c'est quand même au cœur du message chrétien. Et si on voit dans nos vies parfois une sorte d'endurcissement, d'aquabon, de ras-le-bol, de fermeture à l'autre, il peut y avoir des moments d'exaspération, c'est vrai. Moi, je vois bien dans la vie communautaire, on peut être exaspéré par l'attitude de... Pourquoi par l'attitude, j'imagine pour vous, l'attitude d'un enfant, on peut être exaspéré pour nous, l'attitude d'un frère ou de personnes proches de la communauté, etc., qui ne sont pas toujours d'un équilibre extraordinaire, c'est des pauvres souvent aussi. Il faut beaucoup de patience. Hein, mais que cela ne nous fasse pas perdre la joie et l'espérance que dans l'autre. Parce qu'au fond, c'est ça. Et que cela ne nous fasse pas perdre la confiance. Parce que ça vient de là aussi, cette dimension de la confiance. Qui, à mon avis, est vraiment... très, très lié à la joie. Le croyant n'est jamais seul. Hein? Le croyant n'est jamais seul. Alors qu'au contraire, cette expérience de solitude va être une source de tristesse. Mais la vie, l'espérance, l'expérience de la foi, c'est l'expérience d'une présence. Je peux dire, donc au numéro 7, que les joies les plus belles, les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles que des personnes très pauvres, qui ont peu de choses auxquelles s'accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies puisent à la source de l'amour toujours plus grand de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l'Évangile, à l'origine du fait d'être chrétien. Il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Voilà. Nous ne croyons pas simplement dans les valeurs chrétiennes. La vie chrétienne n'est pas d'abord une morale. Ensuite, que ça implique une certaine manière de vivre, oui. Mais transformer la vie chrétienne en morale, c'est la réduire, c'est être réducteur. C'est d'abord l'expérience d'une rencontre. C'est d'abord l'expérience d'une rencontre. C'est d'abord une personne. C'est d'abord le témoignage de Jésus, ses paroles. Nul homme n'a parlé comme cet homme. Attention de ne pas réduire peut-être la foi chrétienne à une morale, parce que ça rend triste. Et je pense aussi dans la transmission de la foi pour ceux d'entre vous qui ont des enfants dans cette étape-là, dans la transmission de la foi. C'est d'abord une transmission qui se fait dans la prière, c'est d'abord le baptême, bon, d'accord, je veux dire, c'est le minimum syndical, c'est la porte de la foi, d'accord, mais ensuite c'est la transmission d'une rencontre, de donner les moyens de faire une rencontre. Mais c'est là où ça nous échappe complètement. Mais quelque part, des week-ends comme ceci, vous donnez aussi à vos enfants des moyens de faire une rencontre. Déjà, avec d'autres enfants qui partagent la même foi, ce qui n'est peut-être pas toujours évident dans les lieux où vous êtes, où vos enfants se sentent peut-être comme chrétiens un peu isolés, hein, mais aussi tout au long de leur vie, de donner. Ce que vous pouvez proposer, c'est donner de fait. Ensuite, l'expérience d'une rencontre, ça ne nous appartient pas. C'est une grâce. La foi, c'est une grâce. C'est pas le... D'abord, une liste de valeurs. C'est l'adhésion du cœur à quelqu'un qui se révèle. Et ce quelqu'un dit, moi, je suis le Fils du Père. Qui m'a vu ? M'a vu le Père. Donc, ne vous lassez pas de donner des occasions à vos enfants de rencontrer le Seigneur. Que la rencontre, ensuite, vous échappe. Comme elle échappe à nous prêtres, comme elle échappe. Parce que on a obligation de moyens, on n'a pas obligation de résultats, bien heureusement. Parce que c'est comme le chirurgien il a obligation de moyens. Maintenant, si l'opération ne marche pas parce qu'il y a des complications mais qui ne viennent pas de lui, ben voilà, on ne lui en voudra pas. Mais l'éducation, c'est obligation de moyens. Mais vous mettez tout pour que ça marche. Bon. Et c'est vrai que moi je vois la différence des jeunes à qui que l'on a sollicité, que l'on a mis en situation de rencontrer d'autres jeunes. Je pense à des aumôneries d'étudiants par exemple, bon, pour les grands jeunes. Moi je travaille surtout avec des jeunes adultes. Bon, là j'accompagne un groupe de jeunes professionnels là, pour les jeunes professionnels sur le diocèse, mais de donner des moyens de rencontrer d'autres personnes qui partagent la foi. Il y a certains qui n'ont aucun chrétien dans leur entourage, aucun. pour le coup, une grande solitude aussi. Avec la déchristianisation massive, du coup, l'expérience d'une solitude très grande. Donc voilà, je trouve, c'est de se dire aussi la foi, cette expérience de foi, eh bien, vous donnez les moyens à vos enfants, comme vous-même vous vous donnez les moyens, entre autres par une retraite annuelle, ça me paraît absolument indispensable. De même la prière, de même la pratique régulière, vous donnez des occasions au Seigneur de vous toucher. C'est seulement grâce à cette rencontre, ou nouvelle rencontre, avec l'amour de Dieu, qui se convertit en heureuse amitié, que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence. Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains. Quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes, mais oui. Là se trouve la source de l'action évangélisatrice, parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ? Bien sûr, si j'ai rencontré le Seigneur, j'aurai le désir de le communiquer, j'aurai le désir d'aller à la rencontre des autres et de me mettre à la fois à leur écoute et puis de rendre témoignage, de porter cette bonne nouvelle, mais parce que je la vis intérieurement.